Vendredi 4.
Mort pour la France.
En ce début d'août, l'Allemagne nazie est bien décidée à éradiquer tous ces groupes de maquisards qui intensifient et multiplient leurs actions de sabotage dans toute la région. Le 4 août, trois membres du maquis Surcouf, Jean Ribaud, dit Jean Labbé, Kléber Mercier, dit Raspail, René Sortenboc, dit Pélican, et un inconnu tomberont au champ d'honneur. Au petit matin, près de la ferme Le Câble, au Mar Fleury, Robert Morin, grainetier de son état, et Pierre Camus, bottèlent à la main du foin. Avec son cheval et son chartil, Rémi Le Câble vient au fur et à mesure le chercher pour le remiser. Vers 5 heures du matin, les trois hommes voient un convoi allemand passer sur la route communale qui borde le champ où ils sont affairés. Ce sont des SS. Ils viennent de la direction de Saint-Siméon et se dirigent dans la direction du bourg des Peignes. Vers 8 heures, la maman de Rémi, Madame Veuve Madeleine Le Câble, s'apprête à se rendre en voiture à cheval au marché de Cormeil. Pour l'anecdote, c'est justement le jour qu'elle a choisi pour emporter avec elle son vieux poste TSF en panne qu'elle espère bien faire réparer au plus vite par M. Brézeau, électricien à Cormeil. Quelque temps après son départ, les trois hommes, comme d'ailleurs l'ensemble des Épagnols, entendent une grande explosion. Explosion que l'on situe alors sans certitude au niveau du four à pain des époux de la Mare, propriétaire du Grand Serre. D'ailleurs, en passant devant cet hôtel-restaurant, Lucienne Delamare apostrophe Madame Le Câble et lui dit « Vous avez entendu, Madeleine, ils sont en train de brûler ma ferme. » À ces mots, Madame Le Câble change de direction et plutôt que descendre directement à Cormeil, elle se dirige vers sa seconde ferme, sise sur la commune de la Chapelle-Bével, au lieu dit « La Maison Blanche ». Sur place, elle dissimule bien soigneusement son poste TSF et, comme de si rien n'était, reprend sa route en direction de Cormeil. Dans la matinée, on apprend que les SS ont abattu trois maquisards et un inconnu, fait sauter le four à pain et mis le feu à une vieille masure sise à proximité. René Cézilly habite à quelques encablures de la ferme Bréval, où le drame, très vraisemblablement le plus horrible que le canton aura connu de toute son existence, va se dérouler. Ce matin-là, comme tous les matins, il s'apprête à traverser la petite route qui sépare la ferme familiale des Herbages, où paissent les chevaux qu'il s'en va chercher. Tout en cheminant, il songe son 17e anniversaire qu'il a bon espoir de fêter, en octobre de la même année, dans la joie et pourquoi pas, dans un pays libéré. En sortant de la cour de la ferme, il aperçoit de la fumée s'échapper de ce qu'il croit être à cet instant, la ferme Bréval. Dans le même laps de temps, il est sommé de se rendre par un groupe d'hommes qui progressent en sa direction. Ce sont des Allemands, armés jusqu'aux dents. Le jeune René songe alors à leur échapper en allant se cacher derrière la grande haie de la ferme. Mais tout aussitôt, il s'en ravise et se rend aux Allemands qui, l'ayant mis en joue, lui ordonnent à présent de mettre les mains derrière la nuque et de les rejoindre au plus vite. René.
Je pense avoir eu un sursaut de lucidité. En effet, à la ferme, mes parents abritaient deux maquisards, Michel Madeleine, dit « Pingouin », qui avait été blessé à Octeville et Jacques Germain, dit « La cuisine », de Boulogne-Billancourt qui avait été tous deux placés par le maquis chez mes parents. Si je m'étais caché derrière cette grande haie de la cour sans doute, les Allemands auraient tout fouillé et les auraient-ils trouvés.
Fort heureusement, ce ne sera pas le cas. Sortant sur le pas de sa porte, la maman de René, qui s'inquiète de ne pas voir son cadet rentrer, aperçoit à son tour de la fumée provenir de ce qu'elle croit, elle aussi, être la ferme des Bréval. De plus, l'aboiement des chiens est inhabituel. Que se passe-t-il? Tendant plus l'oreille en direction de la ferme Bréval, elle perçoit des sons de moteur, de voix, et plus inquiétant, des cris. Sentant un malheur proche, elle va vite avertir Michel et Jacques qui dorment encore au deuxième étage de la grande maison. Ayant compris ce qui se passe, les deux hommes ne perdent pas de temps. Par l'arrière de la maison, ils s'enfuient à travers champs. Ils seront alors recueillis par les époux Berthold qui vivent à quelques lieues de là, non loin de la route de Lieuré. Pendant ce temps, Manu Militari René est mené vers l'endroit où flambe à grand brasier la maison, sise à côté de la ferme Bréval. Il s'agit en fait d'une ferme non exploitée appartenant à la famille Delamare, tenancier de l'hôtel du Grand Serre à Épeigne. En la prenant d'assaut de bon matin, fort bien renseignés, les Allemands savaient qu'ils y trouveraient des maquisards, plusieurs maquisards. Jean Ribaud, dit Labbé, Kléber, Mercier, dit Raspail, René Sortenboc, dit Pélican, seront de ceux-là avant d'atteindre ce lieu, ne marchant sans doute pas assez vite au goût des Allemands, et pour qu'ils gardent les mains bien derrière la tête, le pauvre garçon recevra de très nombreux violents coups de crosse. Arrivé à hauteur de la charterie, sise auprès de la maison qui flambe, il aperçoit deux jeunes femmes, Raymonde et Mireille, et un inconnu. Celui-ci, suite à une fouille musclée, est en train de remonter son pantalon de velours. René.
Cet inconnu semblait hagard. Il me paraissait hébété et ne pas comprendre ce qui lui arrivait. Le faisait-il exprès? Je ne le saurais sans doute jamais. Toujours est-il que tous les quatre nous avons alors été violemment projetés à l'intérieur de la charterie, face contre le mur. La pièce était plongée dans une semi-obscurité. À l'intérieur, il y avait déjà plusieurs personnes. Des Allemands qui, dans un français presque parfait, procédaient à un virulent interrogatoire et des otages. Inlassablement, je les entendais demander « Où se cache Robert Leblanc ?» Et l'homme qu'on martyrisait de répondre « Je ne sais pas, je n'en sais rien, je ne le connais pas. » Immanquablement, il recevait en retour un violent coup qui le faisait hurler de douleur. À un moment, j'ai senti quelqu'un s'approcher de moi et me retourner violemment. En m'y désignant, un officier allemand demanda alors à un homme, celui-là, le connais-tu? Et l'autre de répondre dans un excellent français, non, jamais vu. C'est pas un du maquis. J'ai su par la suite que cet homme qui venait de répondre n'était autre que Georgius, un traître à la solde des Allemands.
C'est à partir de cet instant que René peut alors voir qui, comme lui, est retenu prisonnier. Il y a là, presque en face de lui, celui qui subit l'interrogatoire musclé, Jean Ribaud, mais aussi Raspail, Pélican, Monsieur Marcoux et son commis de ferme, Maurice Bon et le jeune Bernard Bréval. De peur sans doute de trahir par son regard l'une de ces personnes, René décide alors de garder la tête baissée. Il la gardera ainsi baissée tout le temps qu'il sera retenu dans ce lieu. Toutefois, lors de leur continuel passage devant lui, il distingue parfaitement les Allemands. Armés de parements de fagots dont, en véritables torsionnaires qu'ils sont, ils assènent de coups Jean l'abbé qui leur tient tête. René.
Impuissant, j'assistais là à une vraie scène de sauvagerie. Un tumulte de vociférations, de cris, de plaintes atroces envahissait les lieux. Les coups ne faisaient que pleuvoir. Ils étaient si violents qu'au bout d'un moment l'extrémité des parements devenait tout effilocheuse. Chaque coup était immanquablement suivi d'un cri de douleur insoutenable. Et plus je les percevais et plus je me recroquevillais sur moi-même comme si je voulais me rendre invisible, disparaître. Jean l'abbé a tellement été frappé qu'il pouvait à peine se tenir debout. Bien que de petite corpulence et d'aspect frêle, jusqu'au coup fatal, il tiendra tête à ses tortionnaires. Je me souviens encore très bien l'avoir entendu dire « Vous ne saurez jamais rien ». Cela aura le don d'inciter son bourreau rageur à le frapper encore plus violemment. Ces nouveaux coups furent suivis d'une plainte inhumaine, elle-même suivie, dans un dernier sursaut de vie, par « maman ». Ce sera le dernier mot que Jean l'abbé aura prononcé. Il sera alors traîné dehors et achevé, je présume, à coups de revolver. Raspail et Pélican, qui auront subi les mêmes violences corporelles, et l'inconnu seront conduits eux aussi sous un poirier et tomberont sous le feu de la mitraille.
René, son copain Bernard Bréval, que durant tout le temps qu'aura duré cette rafle, son père, Étienne, n'aura eu de cesse de vouloir sauver des griffes des Allemands. Monsieur Marcoux et les deux femmes, Raymonde et Mireille, sont rassemblés dans la route. Ce sera à cet instant qu'ils entendront les Allemands achever les maquisards. Après quelques instants, sous bonne escorte, le groupe sera prié de rejoindre des camions stationnés peu après la ferme de la famille Cézilly. René.
Au cours de notre progression vers les camions, nous avons entendu la déflagration du four à pain. Au moment d'être poussé dans un des camions, j'ai dit que j'habitais dans la maison d'à côté. Les Allemands m'ont alors laissé la rejoindre. Bernard, qui aura dit à peu près la même chose, me rejoindra aussi vite. Quant aux autres, ils ont été conduits à la prison d'Évreux dont ils ont été libérés à la libération de la ville.
Bernard Bréval expliquera qu'au petit matin, les Allemands avaient débarqué chez lui et avaient fouillé toute la ferme. Étonnés de découvrir sept bicyclettes, ils avaient demandé à son père à qui elles appartenaient. L'homme leur avait répondu que l'une d'elles appartenait à sa femme, une autre à son fils, une troisième à lui-même, et que les autres étaient la propriété de Parisiens qui venaient se ravitailler chez lui en beurre. Bien que ne le croyant pas vraiment, mais n'ayant pas été catalogué par Georgius, les Allemands le laisseront et quitteront la ferme. Toutefois, pour faire pression sur lui, ils avaient jugé opportun d'emmener avec eux son fils. René se souvient également que Gaston, un maquisard, lui avait dit avoir vu au petit matin la colonne d'Allemands passer au Marfleury. Il avait alors décidé de la suivre à distance et avait pu ainsi atteindre la ferme Bréval. De là, malheureusement, il assistera impuissant à l'assassinat de ses trois compagnons d'armes et de l'inconnu. En le découvrant, caché dans sa ferme, Étienne Bréval lui demandera d'aller se planquer et d'alerter le maquis, car avec ce Georgius à leur tête, les Allemands n'allaient sans doute pas en rester là. Dans la journée, pour transporter les dépouilles des quatre victimes vers Épeigne ou Le Maire, André Morin avait décidé de faire procéder rapidement à leurs obsèques. Un convoi de quatre carrioles fut formé. Elles appartenaient aux parents de René qui n'avaient pas tenu à la conduire eux-mêmes, Maurice Bon, Étienne Bréval et Maurice Labbé. Madame Bréval, qui bien que pas très argentée, avait choisi pour l'occasion quatre de ses plus beaux draps blancs pour envelopper les corps. Les dépouilles des trois maquisards et de l'inconnu, qui les aura accompagnés jusque dans la mort, sont ramenées le lendemain 5 août à Épeigne. De peur que les Allemands ne reviennent, le maire, André Morin, a tenu à ce que les obsèques soient célébrées au plus vite. Les corps sont alors conduits à la chambre de la Charité, rue du Presbytère, où sous la responsabilité de leur chef, Marcel Maugard, les sapeurs-pompiers épagnols procèdent à la toilette des quatre martyrs. Le menuisier Marcel Picard est chargé de fabriquer les quatre cercueils. De leur côté, plusieurs villageoises, dont sa fille Jeannine, confectionneront des gerbes avec des fleurs du jardin. Il est ensuite procédé à l'office religieux. Jean Dubosc, futur maire d'Épeigne, se souvient que son père lui avait interdit de s'y rendre, de peur que les Allemands ne reviennent. Ils reviendront bien, mais seulement le lendemain. Le 26 septembre 1983, Edmond Floquet, dit Grand Jules, ancien du maquis Surcouf, adressera à René Cézilly cet écrit de reconnaissance « Je sous-signais Floquet Edmond, domicilié 137 route de Rouen, 27 500 Pont-Audemer, certifie sur l'honneur que M. René Cézilly, né le 12 novembre 1927, a, lors de l'affaire du 4 août 1944, à Épeigne, heure, servi sa patrie. Quatre maquisards furent arrêtés par la Gestapo, torturés et fusillés sur place. Malgré son jeune âge, arrêté lui aussi ce même jour au même lieu, frappé et menacé de mort, malgré cela, il refusa de parler, ce qui évita deux autres arrestations de résistants, Michel Madeleine dit « Pingouin » et Jacques Germain dit « Jacques la cuisine et la vie sauve » pour ces deux derniers. Ceci grâce à son attitude courageuse et héroïque, ce jeune, patriote, à l'époque des faits, mérite toute notre reconnaissance. Fait à Pont-Audemer le 26 septembre 1983, le secrétaire liquidateur. Signé dit « Grand Jules ».
Pour la France, leur courage en héritage, nos cœurs se souviennent des héros de passage. Dans le vent de l'histoire, leur nom gravé à jamais, leur bravoure éclaire nos pas pour la liberté. Couplé ce jeune garçon capturé sans pitié, sa lucidité sauve des vies dans la mêlée. La ferme enflamme les cris de douleur, face aux tortionnaires, ils gardent leur valeur. Les Allemands questionnent où se cache l'espoir. Les résistants se taisent, ne trahissent leur devoir. À la ferme Bréval, l'horreur et les tourments, les âmes des braves s'élèvent dans le firmament. Mort pour la France, leur courage en héritage, nos cœurs se souviennent des héros de passage. Dans le vent de l'histoire, leur nom gravé à jamais, leur bravoure éclaire nos pas pour la liberté. René, ce jeune garçon, capturé sans pitié, sa lucidité sauve des vies dans la mêlée. La ferme enflamme les cris de douleur, face aux tortionnaires, ils gardent leur valeur. Les Allemands questionnent où se cache l'espoir, les résistants se taisent, ne trahissent leur devoir. À la ferme Bréval, l'horreur et les tourments, les âmes des braves s'élèvent dans le firmament. Mort pour la France, leur courage en héritage, nos cœurs se souviennent des héros de passage. Dans le vent de l'histoire, leur nom gravé à jamais, leur bravoure éclaire nos pas pour pour la liberté. Leur sacrifice ultime pour un monde plus juste, nous devons honorer ces âmes si augustes. À jamais dans nos cœurs, leur mémoire vivra. Héros de la France, notre flamme, notre loi.